rebonsoir. Deuxième partie d'émission Ondes Noires. Et on va changer un petit peu parce que là, on va parler d'un auteur et de plusieurs de ses livres. Il faut dire qu'ils sont sortis de manière concomitante.
Voilà, donc l'auteur, c'est Ken Bruyn, dont on parle souvent dans cette émission.
Parce c'est que un c'est... auteur qu'on suit voilà, depuis c'est... le premier roman qui a été traduit à la série noire.
Voilà, et c'est un de nos préférés. Et là, donc, on est gâté parce qu'en fait, juste à l'approche de l'été, ben, il y en a trois qui sont parus dans les deux mois, là. Deux
chez Fayard Noir.
Chez Fayard Noir et un, donc, dans la série noire. Celui de la série noire, c'est le troisième des aventures des enquêtes de R&B. On en parlera un petit peu plus tard. C'est les deux flics des quartiers de Londres. Les deux autres, ce sont dans la publication Fayard Noir. Ce sont deux romans, j'allais dire de jeunesse en tous les cas, parmi les premiers qu'a écrit Ken Bruyn. Le premier s'appelle « En effeuillant Baudelaire », et en anglais « Dispatching Baudelaire », et il est traduit par Catherine Cheval.
J'ai apprécié l'anglais. Mais surtout quand tu prononces « Baudelaire » en anglais,
voilà. « Dispatching Baudelaire », traduit par Catherine Cheval et Marie Ploux. Donc c'est un roman, il est copyrighté de 2004, mais en fait, en préface, il dit qu'il a écrit au début des années 90. Peut-être il a fait une petite retouche.
Tu pourrais me faire le verbe copyrighté au subjonctif, non?
Ah ben, en tous les cas, j'en sais rien, mais en tous les cas, Word, en tout cas, il ne me l'a pas rejeté, donc ça doit exister. Donc c'est l'un des premiers de Bruyn. Ça se passe à Londres. Mike Shaw est un comptable très propre sur lui. Un soir dans un bar, il rencontre une jeune femme, Laura. Celle-ci lui fait un peu de rentre-dedans, comme on disait à l'époque, du gringue.
Oui, du gringue, oui.
Donc, quelques jours après, il la revoit, il a une petite aventure avec elle.
Il conclut, comme on dirait dans certains films.
Et il fait connaissance de toute sa famille et commence, à partir de ce moment-là, une véritable descente aux enfers. Il rencontre, entre autres, donc, le père de Laura, qui est un être un peu bizarre, même étrange, passionné de Baudelaire, mais aussi de sexe et d'alcool, et qui va tenter de lui faire
Baudelaire partie. Aussi, hein.
Mais Baudelaire aussi, ben oui, c'est ça, exactement. Ça va se mêler complètement dans la suite du roman. Et il va lui tenter de lui faire partager sa passion pour le poète et pour toutes ses autres...
Addictions,
voilà. Enfin, bien que le sexe, pas, enfin, ça peut être une addiction. Et tout va se passer à travers les poèmes de Baudelaire, surtout les poèmes... essentiellement les poèmes en prose. Et bon, Baudelaire a bien écrit « Les fleurs du mal », donc c'est exactement ça qui va se passer. Et Bruyn l'explique dans sa préface, il a voulu prendre un être moyen, tranquille, et voir comment l'appât du gain ou d'autres appâts vont l'amener à le transformer en criminel, et voire en criminel récidiviste.
C'est vraiment un des thèmes qu'on retrouve dans le roman noir, en dehors du roman policier. Vraiment, le roman noir, c'est-à-dire comment un être totalement ordinaire, qui pourrait être nous, peut se retrouver dans une machination complètement délirante ou dans une descente aux enfers, telle que tu viens de le décrire. Donc c'est vraiment un des thèmes très particuliers du roman noir.
Ouais, parce que par exemple, il dit... Son copain dit « L'enfer pour moi, c'est d'avoir raté ma vie en me regardant droit dans les yeux. Parce que moi, j'ai joué la sécurité, pas de risque, pas d'émotion. J'ai courbé la nuque en attendant que ça passe. » C'est le mec, il aurait fini sa vie tranquille. Et puis là, pof, il y a un petit grain et ça bascule. Et dans ce roman, c'est donc un des premiers, on découvre tous les tics, si j'ose dire, les thèmes préférés de Ken Bruyn. Les références littéraires constantes, la musique omniprésente, l'homosexualité, dont il parle souvent. Ici, donc, c'est le copain, le meilleur ami de Mike Shaw, qui s'appelle Brad. Et évidemment, les drogues et le chocolat, parce qu'il y a souvent du chocolat, qui sont utilisés à peu près de la même façon pour leur pouvoir lénifiant, enfin calmant.
Oui, les endorphines sont voilà, bien célèbres chez
chocolat. Il ne parle pas des endorphines, mais il parle...
Chocolat anglais, mais...
Voilà, il cite la marque du chocolat, mais comme de toute façon, c'est une marque anglaise qu'on n'a pas chez nous.
Cadbury.
Non, ce n'est pas Cadbury. Voilà. Et enfin, bien sûr, ça c'est toujours très important chez Ken Bruyn, la violence. Une violence qui est très très souvent due en général à la société. Et ici, c'est la fin des années Thatcher. Et cette brave Madame Thatcher a laissé l'Angleterre dans un état socialement délabré. Voilà. C'est un roman très très intéressant, mais on sent que c'est le premier et il n'y a pas tout à fait les talents d'écriture des suivants. Un peu comme s'il avait vraiment voulu écrire cette idée donc il a au début de prendre ce mec et puis de l'amener jusqu'au bout et sans un bon scénario mais en fait comme au cinéma on dirait un bon scénario mais un réalisateur un petit peu moyen.
Ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment l'impression, comme il y a eu le néo-polar français dans les années 80, on a vraiment l'impression qu'on se retrouve dans une sorte de néo-polar anglais après tout, on ne va pas parler du début du siècle, mais en particulier Robin Cook, tout ce renouveau qui parle, qui a été vraiment mis à mal, une société mise à mal par les années Thatcher, et ça a été l'émergence de Nicolas Blinko, de David Peace, et donc de Ken Bruen. Et la violence est ultra présente, mais elle n'est pas gratuite. C'est vrament pour démontrer que la société est en pleine déliquescence.
Complètement. Et c'est un truc qui se retrouve exactement dans le roman suivant dont je voulais parler, qui s'appelle Ackman Blues, toujours donc de Ken Bruen. Ce coup-ci, il est traduit par Madame Simone Arousse. Et donc Ackman Blues, l'Ackman en question, c'est l'acteur Gene Ackman.
Il est d'ailleurs en couverture du livre.
Il est en couverture du livre, c'est facile à reconnaître comme ça, avec un gros panneau underground derrière lui. Et Gene Ackman, bon, il est connu essentiellement, c'est un excellent acteur, mais il est surtout connu pour ses rôles de méchant, de pourri, de raté, enfin, comme ça. Et c'est l'acteur préféré de Jack Dunphy, qui est un promoteur immobilier aux manières, disons, un peu orthodoxes. Un peu comme certains personnages de Gene Ackman, justement. Et ce promoteur immobilier va demander un soir à Brady, qui est un psychopathe notoire, de lui retrouver sa fille.
Ça commence bien.
Ça commence bien. Mais Brady, comme il le dit lui-même tout au début du roman, il est barré grave. En fait, il fonctionne au sel de lithium. Donc tant qu'il en prend, ça le maintient dans un état à peu près normal, sauf quand il oublie de les prendre, ou il ne veut pas les prendre, ou qu'il les mélange avec son liquide favori, sa boisson favorite, qui est le Jack Daniels. Donc ce Brady, bien qu'il soit barré complet, il va finir par retrouver, même assez vite, la jeune fille en question, mais elle se trouve sous la protection d'un proxénète et d'un caïd du quartier de Brixton. Elle aussi, elle est barrée grave. Donc, c'est un quartier de Brixton, le quartier jamaïcain et un peu chaud de Londres. Et donc, il ne suffit pas de la retrouver, on n'est pas dans un conte, il ne suffit pas de la retrouver pour la rendre à son papa. Et il va se passer toute une suite de divers dérapages qui pourraient, par contre, plutôt que d'un film de faire Cohen, là, ça serait plutôt dans un Tarantino, que ça ferait bien un effet, tout ce qui se passe à suite, que je vous laisse découvrir. Mais on retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, les mêmes thèmes. L'homosexualité, ici c'est représenté par Brady lui-même, qui est un gay assumé, mais qui pratique son homosexualité avec force, conviction, si j'ose dire. Et les références et citations littéraires. Et parce que les héros de Bruen, ils sont tous plus ou moins détraqués, mais ils sont tous de grands lecteurs. Comme quoi, on peut être grand lecteur et détraqué. La violence dans ce roman, alors là, vraiment, est archi-présente. Je disais Tarantino, mais c'est du niveau de certaines scènes de Reservoir Dogs ou de Pulp Fiction. Mais il n'y a aucune complaisance avec la violence. Enfin, du moins, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Parce que la violence est toujours le résultat d'une situation qui est plus violente encore, due à la, bien que plus policée, mais qui est due à la société elle-même, en fait. Ces mecs-là, ils agissent. S'ils sont frappés, c'est qu'il y a des raisons qui les ont amenés à faire ça.
Ça ne veut pas dire que ça rappelle beaucoup de romans américains qui nous arrivent en ce moment et qui sont très, très bien traduits. Voilà.
Ça veut pas
comme
dire
Tim Dorsey, par
voilà,
exemple.
Ça ne veut pas dire qu'il faut les excuser, mais ils ont des
circonstances,
voilà, un peu atténuantes. Et ce roman date de 97, et par rapport au précédent, on voit que Ken Bruen a déjà trouvé son style, son rythme, un sens du récit très, très, très rapide, fait de phrases courtes, en fait, qui est assez, on pourrait dire, rock'n'roll. Hein. Moi, je vois ça.
Il fait beaucoup de références.
Voilà, il fait beaucoup de références à la musique. Ah oui, il cite et les musiciens qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas, en ne se jugeant pas pour dire ce qu'il en pense.
Ben justement.
Justement, et ben, une petite pause musicale, avec, donc, puisqu'on est en Angleterre, avec un Anglais. Et qui plus anglais et meilleur, plus talentueux que David Bowie, avec une chanson qui s'appelle Life on Mars, dont on reparlera un petit peu après, tout à l'heure. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the
the seats with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, what did he reveal? Never know. Who's in the best-selling show? Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
Et le tonnerre qui ponctue Life on Mars. Donc, on n'a pas choisi cette chanson au hasard. D'abord parce qu'elle est anglaise et on parle que d'auteurs anglais.
Et puis en plus qu'elle est magnifique.
En plus, évidemment.
En plus qu'elle est.
Ouais. Et surtout parce que deux mots sur une série anglaise des plus brillantes, qui dont le titre est, oh étonnement,
Life on Mars. Voilà. Donc c'est une série anglaise de la BBC et dont les personnages, en fait, rappellent beaucoup les personnages du roman dont on va parler maintenant. Donc, c'est un inspecteur de police du XXe siècle qui se retrouve par un hasard un peu étonnant.
Au XXe siècle. Donc, en fait, c'est du XXIe siècle, voilà, qui revient en 73.
1973. Et au moment où il y a eu un accident de voiture, il a écouté cette chanson qui s'appelle « Life on Mars ». Et il se retrouve donc, il est flic, mais il se retrouve dans un commissariat en 1973.
Donc, le dernier roman de Ken Bruen.
Le dernier roman de Ken Bruen s'appelle Blitz dans la série R&B, c'est-à-dire Robert et Brandt. Donc, Ken Bruen a deux séries où on voit des personnages revenir. La série des Jack Taylor, qui est un détective irlandais à Galway. Et la série R&B, qui met en scène deux flics dans les quartiers sud de Londres. Cette aventure, donc, c'est la quatrième de Robert et Brandt. Si vous ne les connaissez pas encore, donc, ce sont deux flics de Londres. Ils exercent leur métier, disons, un peu comme ils peuvent, souvent avec les moyens du bord. Et parfois aussi, les truands.
Ils utilisent les mêmes méthodes pour arriver à des résultats. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça dans l'iPhone Mars. Et c'est vrai que ça peut paraître très choquant, Mais en fait, c'est un super miroir de la société.
Ah oui, de toute façon, le personnage de Brandt est très très proche du, si vous avez déjà vu le feuilleton, du personnage du DCI, là, donc du commissaire Jane Hunt dans Life on Mars. Donc au début de cet épisode, ça commence par un truc complètement hilarant, c'est Brandt qui rend visite au psy de la police suite à ses excès de violence. C'est une scène absolument d'anthologie. Le pauvre psy, il aura presque envie de changer de métier après ça.
Ou alors il va voir son propre psy.
Voilà, on va voir son propre psy. Par contre, Robert, lui, il est au fond du gouffre parce que sa femme vient de mourir et il s'en remet difficilement. Et là, du coup, il tombe plutôt dans l'alcoolisme et dans une quasi-clochardisation. Pendant ce temps-là, en fait, l'équipe du commissariat affronte un tueur de flics. Un tueur qui semble tuer les flics un petit peu par plaisir et par hasard. Mais il s'en prend à Falls, tout pour commencer. Falls, c'est une des partenaires de Robert et Brandt, donc dans le commissariat. C'est une grande superbe, mais qui est un seul. Et c'est un des personnages de cette 87e district du bas de Londres. Quoi. Parce qu'on reprend aussi de nouveau un peu cette façon de raconter l'histoire de deux personnages, mais avec tous les autres du commissariat autour.
Oui, tu fais référence au 87e district d'Ed McBain.
Voilà.
Qui est la référence.
Et si je fais référence, c'est qu'en fait, Brandt, le héros, est un fan absolu de Ed McBain. Il avait toute la série des bouquins de Ed McBain. Et malheureusement, ils ont brûlé dans un des épisodes.
Et c'est pas peu dire parce qu'il y a plus de 60 ou 70 épisodes de cette série.
Voilà. Et donc, en fait, ensuite, le tueur de flics va s'attaquer à Brandt et là, l'enquête va redémarrer avec grande vitesse. Donc, on retrouve déjà, encore plutôt, ce roman, les thèmes de...
Laisse-moi deviner. L'homosexualité.
Voilà, puisqu'il y a effectivement un flic homosexuel dans l'histoire.
Un flic homosexuel?
Oui, et qui...
Mais comment se peut-ce?
Eh bien, le pauvre, c'est que, comment se peut-ce, il subit nombre vexations, disons. La musique et surtout les citations littéraires. Alors là, c'est chaque outre McBain, c'est chaque début de chapitre où il y a une citation en exergue, soit d'auteurs de polar ou non, genre Tolkien, Pelecanos, Robin Cook, ou de personnages célèbres, Andy Warhol, Elton John, Russell Crowe, ou même une dont je vais vous citer parce que je résiste pas. La phrase doit éclairer le chapitre. Elle le fait pas toujours. Par exemple, celle-là.
Mais elles sont tellement.
C'est une citation de Ginger Rogers qui dit. Je ne comprends pas pourquoi on fait tout un plat de la façon dont Fred Astaire dansait. Je faisais la même chose, mais avec des talons hauts et à reculons.
Voilà, ça c'est...
Voilà, c'est...
Ça montre un peu aussi l'humour
voilà,
de
Voilà, c'est
Ken
ce que
Bruen.
Je voulais dire, c'est que Ken Bruen, surtout dans celui-là, a beaucoup d'humour, ce qui fait que ça permet de faire passer beaucoup de la sombre... du côté sombre des histoires qu'il raconte.
Oui, parce que c'est ça. Il faudrait quand même qu'on insiste dans notre dernière minute par le fait que c'est vrai que ce sont des romans glauques, ce sont des romans très violents, mais d'abord, ils décrivent une certaine réalité.
Oui, une société complètement en déliquescence.
Voilà. Et deuxièmement, c'est une écriture qui est quand même réjouissante et jouissive, avec des tas de références littéraires. C'est très intello d'un certain côté. Et on peut se marrer aussi bien.
Oui,
il y a plein de moments très drôles, très grinçants, mais très drôles.
Celui-là, c'est probablement le plus noir des R&B, mais c'est aussi, du point de vue écriture, le meilleur. C'est de très très loin, c'est un très très grand roman. C'est un très très grand roman. C'est du pur noir, comme on dit dans les chocolats aussi, puisqu'il en parle souvent. Ça, c'est à recommander, tout comme les autres d'ailleurs.
Donc on va peut-être reciter, juste avant de vous dire au revoir,
voilà.
Donc les trois romans, les deux premiers chez Fayard Noir, je te laisse citer.
Donc chez Fayard Noir, Hackman Blues et En effeuillant Baudelaire.
Qu'on peut prendre dans n'importe quel ordre parce
voilà,
qu'ils sont en dehors des séries.
Voilà, et donc dans la série noire, dans la série R&B Blitz, et au cas où vous voudriez, le premier de la série qui s'appelle Le Grand Coup est sorti en folio policier à 5,50€.
Et j'en rajoute d'une couche, si vous voulez lire le premier de la série Jack Taylor, il vient aussi de sortir en folio policier.
Voilà, donc, et il y a même le suivant.
On cite toujours ces folios policiers parce que c'est une série donc peu chère qui vous permet de découvrir des auteurs sans dépenser beaucoup d'argent. Voilà, on vous dit au revoir en écoutant quelques notes de notre générique. À bientôt.